Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel à 106.3. C'est l'heure de l'hebdo qui est avec du retard aujourd'hui, mais vous allez comprendre rapidement à quoi est dû ce retard. Et aujourd'hui, l'hebdo est consacré à la mobilisation contre la réforme des retraites et devait être avec nous et Laura et Thomas, mais Laura Cheminotte, qui n'a pas pu se rendre comme prévu et du fait des préparations de la manifestation. Donc on a pu enregistrer son intervention, voilà le retard, et on va compléter après avec Thomas, qui lui, il est dans le studio.
Bonjour.
Et qui est un instituteur dans le 18e arrondissement pour nous parler de la mobilisation à l'éducation nationale. On entend Laura. Et bonjour Laura, tu es cheminote au Bourget, normalement on devait se rencontrer aujourd'hui, mais bon, et on va essayer de commencer pour faire un bilan de la mobilisation à la SNCF. On sait bien que les assemblées générales ont voté la grève reconductible, mais justement, comment ça se passe et quel bilan tu fais de la mobilisation du 5 décembre?
Bonjour à tous et à toutes, et désolée de ne pas pouvoir être là parmi vous. C'est vrai qu'avec la grève, je suis sur le départ pour la manifestation d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir être présente avec toute l'organisation de la grève. Mais juste pour dire, du coup, pour la manifestation du 5, la mobilisation du 5, c'était une journée historique. Déjà, les taux de grève à la SNCF, faut savoir que c'est une entreprise qui a la moitié à peu près des cadres parmi ses effectifs, et les taux de grève étaient vraiment très très élevés. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps à la SNCF. Donc avec une grève aussi historique à la RATP, avec des taux de grévistes encore plus importants que le 13 septembre. Donc c'est une grève qui est très très importante, très suivie. La surprise pour nous, agents RATP et SNCF, on savait déjà que les taux de grève allaient être forts. La surprise et qui nous réjouit énormément, c'est les taux de grève dans l'éducation, qui était une grève très très forte aussi. Et on sait aussi qu'il y a des secteurs dans le privé qui sont mobilisés, dans la fonction publique en général, et qui ont été massivement en grève le 5 décembre. Concernant la SNCF, donc je disais, les taux de grève, ils sont très élevés. C'est très très fort et ça reste fort. Pour dire, on est à plus de 90% de grévistes à la conduite. Et dans les autres secteurs, le taux de grève, la moyenne, c'est à peu près autour de 60% de grévistes, ce qui est vraiment vraiment très très important à la SNCF. Donc là, la totalité d'assemblées générales qui sont tenues ont voté la reconduction de la grève, donc d'abord jusqu'à vendredi et puis maintenant jusqu'à lundi. Donc la grève, elle va continuer la semaine prochaine.
D'accord. Et tu sais, tout à l'heure au studio FPP, il sera avec nous un instituteur du 18e arrondissement, donc il pourra nous parler justement de la mobilisation et dans l'éducation nationale. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel arrive la réforme des retraites et à la SNCF. On sait bien que la tension n'a pas laissé de monter. Il y a eu le dépôt des sacs et des contrôleurs du réseau Paris-Zalazar et le droit de retrait le 18 octobre dernier, et le dépôt des caisses des technicentres, des Châtillons et de la région parisienne et lyonnaise. Donc cette réforme des retraites s'ajoute déjà à une dégradation des conditions de travail. Il faut dire qu'à la SNCF, il y a et près d'une vingtaine de suicides depuis le début de l'année, alors, et qu'il y a des salaires insuffisants et des réductions d'effectifs. Alors, comment est vécue cette poisse supplémentaire sur les salariés de la SNCF?
Oui, il faut savoir qu'à la SNCF, on vient d'une grève de plus de 3 mois l'année dernière, déjà, contre la réforme ferroviaire. Donc c'est cette réforme en réalité qu'on est en train de voir s'appliquer aujourd'hui de manière concrète sur nos conditions de travail, avec énormément de réorganisations, de suppressions de postes, de suppressions de guichets, de lignes, etc., qui font que les conditions de travail des cheminots se dégradent énormément depuis plusieurs mois, et c'est ça aussi qui explique En grande partie, le ras-le-bol qui s'est exprimé de manière un peu spontanée avec le dépôt de sac des conducteurs et contrôleurs autour de l'accident qu'il y a eu en Champagne-Ardenne. Et puis derrière, le dépôt de sac aussi des podcasts de technicentres, notamment Châtillon qui a été le premier, qui a été oui, en ras-le-bol face à l'offensive de la direction de vouloir, en gros, ils voulaient leur supprimer 12 repos. De leur repos annuel. Donc, il y a un dépôt de caisses massives sur le technicentre, en tout cas sur Châtillon-Bas, et qui a fait paralyser la moitié, enfin, quasiment toute l'axe sud-ouest de la France, quoi. Donc, c'est une colère qui existe et qui est présente dans de nombreux secteurs SNCF depuis plusieurs mois. Et là, la réforme, c'est la réforme de trop. C'est la réforme des retraites. On sait très bien, enfin, que ça concerne tout le monde, ça concerne pas que les cheminots. Et je pense qu'il faut aussi mentionner, quand on parle du contexte, le contexte des Gilets jaunes, c'est-à-dire le mouvement qui fait trembler le gouvernement depuis plus d'un an et qui a eu un impact aussi chez... moi, j'ai beaucoup de collègues et on a été nombreux à être dans les rues depuis le 24 novembre, hein, ce qui me concerne. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été aussi dans la rue avec les Gilets jaunes. Et c'est cette spontanéité-là aussi qui s'exprime, ce ras-le-bol général de la société dans laquelle on vit, qui s'exprime aussi dans les technicentres et dans tous les secteurs de la SNCF et la RATP qui aujourd'hui sont mobilisés.
Oui, merci Laura pour ton intervention. On te laisse partir à la manifestation qui va avoir lieu où?
C'est à Bercy, du coup, c'est la manifestation des Gilets jaunes. Donc nous, on a fait une rencontre, si je peux me permettre de faire juste une dernière... raconter une dernière chose. Hier, il y a eu une rencontre appelée par des grévistes de la RATP, de la SNCF, une rencontre interprofessionnelle qui s'est tenue à la gare Saint-Lazare. Donc, c'est une rencontre qui a regroupé de nombreux dépôts RATP, de nombreuses gares SNCF et aussi pas mal d'enseignants de différents collèges, lycées, des assemblées interprofessionnelles aussi d'Aubervilliers, du 92, l'AG, enseignants Île-de-France, etc. Et ça a réuni énormément de monde. Il y avait plus de 400 personnes. On a décidé, avec les collègues qui étaient présents, les grévistes qui étaient présents, de participer du coup à la manifestation des Gilets jaunes aujourd'hui. Et on a aussi décidé de poursuivre cette forme de coordination des assemblées générales. En fait, mercredi prochain, on fera une nouvelle coordination, une nouvelle réunion de coordination avec l'idée que chaque assemblée générale mandate des grévistes et des personnes mobilisées pour venir se coordonner, parce qu'on veut que personne puisse décider à notre place, puisse personne puisse négocier à notre place. On veut que la grève appartienne aux grévistes.
Merci beaucoup, Laura.
Oui, merci à vous et désolé encore une fois et bonne
année. C'est pour la bonne cause. Bon, mais maintenant, on revient sur les studios d'FPP. Alors, Thomas, qui est avec nous. Et, bon, la même question qu'à Laura, c'est-à-dire, quel bilan tu fais de la mobilisation dans l'éducation nationale, que, si on se tient qu'au taux des grévistes, 51% dans les primaires, 42% dans les secondaires, selon le ministère de l'Éducation, et environ 70% d'après les syndicats. Et des mémoires d'enseignants, on n'avait pas vu depuis 2003.
Alors 2003, j'ai pas connu 2003. Je suis arrivé sur la mobilisation. Oui, je suis encore un peu jeune. Je suis arrivé sur, pas la mobilisation, mais dans le métier en 2010. C'était ma première manifestation, enfin mon premier mouvement en tant qu'enseignant. 2010, donc les retraites, la loi Sarkozy. Et alors, on sentait venir ça parce que le 5 décembre, il avait été quand même annoncé depuis pas mal de temps. La retraite à points, on en discutait pas mal avec les collègues, etc. Et assez vite, on s'est aperçu, notamment parce qu'il y avait eu cette journée en septembre de la RATP qui avait tout bloqué Paris pendant une journée. On s'est rapidement en fait aperçu que le mouvement allait être extrêmement fort dans les transports. Et comme bien souvent ces dernières années, quand ça part dans les transports, quand c'est fort d'aller dans les transports, ça donne du courage à pas mal de gens, y compris dans les secteurs qui suivent généralement les transports, c'est-à-dire l'éducation nationale. Et Très vite, les gens se sont dit, bah ouais, je fais grève le 5. Et puis, alors nous, on a le droit de grève restreint, c'est-à-dire qu'on est obligé de déposer des intentions de grève 48 heures avant. Et en faisant nos intentions de grève pour le 5 décembre, très vite, assez automatiquement, les collègues se sont dit, bah, on se met en grève le 5, 6. On dépose nos intentions de grève pour le 5, le 6 et les jours d'après. Et ça s'est fait assez naturellement, assez facilement. Alors le 5, bah, on s'est retrouvé 300 personnes en assemblée générale, 300 enseignants du premier degré en assemblée générale à Paris, à la Bourse du Travail. C'est pas un nombre extraordinaire, parce qu'on est 6 000 instits sur Paris. Mais ce qui a un peu changé, c'est que les syndicats majoritaires, et notamment le SNUIPP, qui appartient à la FSU, la Fédération syndicale unitaire, qui est majoritaire dans l'éducation nationale, a tout de suite. Alors, elle n'a pas lancé le mot d'ordre de grève reconductible, mais c'est laissé porter par l'Assemblée générale. Dans les tracts, elle disait déposez vos intentions de grève, etc. Elle semblait, en fait, elle semble même toujours, pousser les collègues à se mettre en grève reconductible. Et à quasi unanimité, l'AG de 300 personnes, jeudi 5 décembre, a voté la grève reconductible. Et ça, moi, j'ai jamais vu ça. Et même en 2010, où la mobilisation était assez forte, il a fallu qu'on attende 2 semaines, 3 semaines, pour que les syndicats majoritaires se disent, bon, allez, on y va, on se met en grève reconductible, allez, on essaye. Là, tout de suite, l'Assemblée générale, les syndicats ont été assez unanimes, et on est en train de reconduire la grève. Alors moi je suis instit dans le 18e arrondissement. On n'a pas fait d'AG parisienne depuis jeudi. Là on se regroupe par arrondissement, on fait des AG par arrondissement. Et hier, donc vendredi 6 décembre, dans les 3 arrondissements qui sont traditionnellement les plus mobilisés, c'est-à-dire le 18, 19, 20 et le 13, le 13e, il y a eu des AG à plusieurs dizaines de personnes, c'est-à-dire que dans le 18, 19, 20, on était autour de 70-80. Dans le 13e, je pense que c'était un peu dans ces eaux-là, je n'ai pas les nombres exacts en tête. Et ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai jamais vu ça avec ma jeune expérience du métier. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le métier, mais je n'ai pas vu ça. Et je pense qu'on doit être, en écoutant les anciens, comme on dit, du métier, qui ont connu 2003 et qui ont connu 95, on est dans un taux de mobilisation qui est à peu près équivalent à celui de 2003. 95, je pense que c'était encore un peu au-dessus, mais peut-être que ça va venir, hein, voilà. Et alors hier, donc en assemblée générale, on a décidé, la première chose, c'est d'aller voir les collègues non grévistes, de faire ce qu'on appelle des tours d'école, hein, dans le jargon enseignant. Et l'accueil est assez sympa. Et puis les collègues disent, bon, c'est vrai, on a du mal à faire grève, c'est un peu compliqué, mais il y a des grosses journées là qui ont été posées par l'intersyndicale le mardi 10 décembre, et je pense, oui, le jeudi 12 décembre est un peu dans les tuyaux. Je pense que le. Et alors, donc, les collègues disaient, oui, le mardi 10 décembre, on va s'y mettre, là, parce qu'effectivement, on en a ras-le-bol. Tout pèse un peu, là, en ce moment, sur les collègues qui je partage pas mal l'analyse de la camarade cheminote, là. Tous les collègues sont en colère. Ça peut être une colère qui s'exprime aussi par une certaine lassitude ou un certain abattement, mais je veux dire, il y a un espèce de dégoût de ce gouvernement et des attaques qu'on subit depuis des dizaines d'années.
Oui, justement, on peut revenir sur ces colères. Il faut dire que dans l'éducation nationale, l'année dernière et cette année, c'est des années où avec les réformes à Blanquer, la réforme baccalauréat, la réforme du lycée et Parcoursup, il y a eu quand même une dégradation importante des conditions de travail. Et parce que, par exemple, maintenant, avec les contrôles continus, c'est quand même un contrôle aussi continu et exercé sur chacun des enseignants. Et il y a quand même une multiplication des tâches. On a eu comme des suicides à l'éducation nationale. Donc, ces conditions de travail dégradées, et c'est, effectivement, ça pèse. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur toutes les mobilisations qu'il y a eu autour des Blanquer, réformes à Blanquer?
Alors, je connais un peu moins bien les mobilisations dans le secondaire, mais je sais qu'ils ont été extrêmement affectés, notamment par la réforme du baccalauréat, que ça va beaucoup modifier leurs conditions de travail. Nous, sur la réforme Blanquer, ce qui nous pèse, c'est qu'on a subi une défaite. Là, on les voit arriver tout doucement les conséquences de la réforme Blanquer. Pour l'instant, à la rentrée là 2019, ça a pas été complètement, tout n'a pas été complètement mis en place. Et puis ils avaient amendé le texte, notamment sur le fait que les directeurs directrices devenaient chefs d'établissement. Ça n'est pas le cas. Donc ça, c'était un point assez crucial. Et donc on ne le suit pas. Mais par contre, la réforme Blanquer, je trouve que là, en ce moment, elle pèse particulièrement parce que il y a eu des très grands taux de grévistes au moment de la réforme Blanquer. On a subi une défaite, disons-le comme ça, ou en tout cas une défaite relative, mais une défaite quand même. Et beaucoup de gens se disent « Non, mais la grève, ça sert à rien, on en a marre, on a perdu déjà beaucoup de sous, on a payé en juillet, on n'est pas parti en vacances, ou alors on a dû amputer nos vacances. » Et ça, on l'entend beaucoup en salle des adultes, dans les écoles. On entend beaucoup de gens comme ça exprimer un peu leur rancœur, leur tristesse, leur abattement à la suite de cette défaite qui pèse largement, notamment dans le premier degré de l'éducation nationale. Voilà.
Mais en même temps, pendant cette mobilisation, il y a eu des formes innovantes, si on peut dire, et des résistances à ces réformes.
Oui. Alors, c'était assez enthousiasmant à l'époque parce qu'on a eu des taux de... Là, on a eu des taux de grève aussi assez forts. On a eu des tentatives de reconduction. On a eu des prises de contact avec le second degré. Il y a eu beaucoup de d'innovations, je ne sais pas, mais en tout cas de remise au goût du jour de techniques de grève et puis de techniques de protestation qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça a été une période assez, je dirais, euphorique, en tout cas déterminée dans le premier degré, où pas mal de jeunes collègues se sont lancés dans le syndicalisme, se sont lancés dans la politique, se sont lancés dans la contestation sociale et ont appris de ce mouvement. Mais toutes les défaites sont souvent un peu chères payées par la suite, j'espère. En tout cas, là, on le voit pas trop, mais j'espère que à la longue, ça ne va pas trop peser sur notre mobilisation. We spent all night, even rather dead, to work, to run, to all the flames, and we went through a lot of weather, the storm, the cold, the frozen. Yes, we waste, made work. The freedom, 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 freedom. The freedom, 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 freedom. We're running, burning like the flames and burn. Burning to success and return. Riddle like rhythm, mouth and proclaim. The freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. Some people living for their rights, some people living for glory and righteousness. Tell me when we meet like you. It was them who was coming to preach to our feet. We're running on, burning like the flames and burn, burning to success and we.
open mouth and proclaim the freedom, 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 freedom. The freedom, 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 freedom. I didn't give up to give a breath to peace. I was a brave girl, I moved to heaven and earth for freedom. Pushed by the darkness, the suffering, the pain to be highest. You gave a name to my strength, yeah. You called it fear and weakness, but not wisdom, but not wisdom. You despised me despite the grace I gave you. And you can kill to win, but I'm not with you. But I'm not with you. I'm not with you.
We're running on, burning like the flames in bronze. Burning to success and we talk. We don't like ribbon mouth and proclaim the freedom, 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 freedom. The freedom, 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 freedom. We're running on, burning like the flames in bronze. Burning to success and we talk. We don't like ribbon mouth and proclaim the freedom, 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 freedom. The freedom, 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 freedom.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous êtes à l'écoute de l'Hebdo, le magazine de l'actualité sociale et politique, qui revient aujourd'hui sur le bilan de la mobilisation du 5 décembre et les suites à venir. Et il y a eu avec nous au téléphone Laura, qui est cheminote à Haut-Bourget, et nous sommes en compagnie de Thomas, qui est instituteur dans le 18e arrondissement. Et justement, on a pu voir... pendant le temps qui a précédé la mobilisation et même maintenant, quel gouvernement essaye d'éteindre les mécontentements secteur par secteur et quelque part pour désamorcer la contestation. Mais pour essayer de comprendre cette manœuvre des gouvernements, il faudrait déjà comprendre quelles sont les conséquences de cette réforme dans l'éducation nationale.
Alors, dans le premier degré, je pense qu'on est une des professions qui va être les plus touchées en fait par cette réforme. Bon, déjà parce qu'on bénéficiait entre guillemets d'un régime spécial jusque-là, parce que notre carrière était, nos pensions retraite étaient calculées sur nos 6 derniers mois de salaire, c'est-à-dire généralement pour des fonctionnaires les 6 meilleurs mois de salaire, puisque le salaire progresse tout au long de la carrière pour atteindre son plus haut niveau au moment où on va partir à la retraite. Contrairement au privé, qui la retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Voilà. Et avec cette réforme qui revient, dont le calcul de la retraite va se faire sur l'ensemble de la carrière publique-privé. Alors, Macron a annoncé qu'on allait prendre en compte les primes. Or, il se trouve que nous, enseignants du primaire, nous n'avons pas de primes, ou alors très peu. On a une petite prime de prise en charge, mais on a très peu de primes. Les enseignants du secondaire en ont un peu plus. Donc pour eux, ça risque d'être moins douloureux si cette réforme passe, mais c'est pas non plus dingue, hein, le niveau de primes qu'ils ont. Et les syndicats ont fait un rapide calcul, et nous, on perdrait par mois, sur nos pensions de retraite, entre 400 et 650 euros. Voilà, donc ça, on peut arrondir à 500, prendre une fourchette médiane et arrondir à 500 euros par mois. 500 euros par mois, sachant qu'on a des salaires qui excèdent rarement 3000 euros en fin de carrière. Voilà, on a, à mon avis, beaucoup à perdre. Effectivement, Blanquer a essayé d'éteindre le feu quand il a vu les taux de grévistes, quand il a vu les gens qui se lançaient dans la grève reconductible, en disant qu'il allait revaloriser les salaires et puis qu'il allait mettre une pension minimale à 1000 euros, mais seulement si on atteignait l'âge minimal de la retraite, qui est de 65 ans maintenant, si je ne m'abuse.
C'est-à-dire, il y a la discussion sur l'âge pivot, pas pivot, ouais. Mais c'est au moins 64, oui.
Ouais, au moins 64 ans. Je sais pas si vous avez déjà vu une classe d'école maternelle. Je ne souhaite à personne à 64 ans de se retrouver devant des enfants de 4-5 ans pendant 25 heures par semaine. C'est à mon avis assez pénible. Donc non, en fait, cette promesse de 1000 euros, déjà 1000 euros par mois quand on est retraité. Alors certes, il y a des tas de retraités, hein, notamment je pense aux agriculteurs, etc., qui vivent avec bien moins que ça. Mais bon, c'est pas une raison. 1000 euros par mois quand on est retraité, quand on a des soins de santé, puisqu'on va en avoir, hein, des soins de santé, passé cet âge. Quand on a passé toute une vie à travailler avec des enfants, c'est un métier assez physique, disons-le. Hein, c'est pas non plus de tourpeau, c'est pas un métier extrêmement pénible, mais c'est pas non plus de tourpeau. Y a des soins, on a des enfants qu'il va falloir aussi protéger contre les risques de la vie, etc. Blabla. Bah, 1000 euros, je me vois pas, moi, à 65 ans, vivre avec 1000 euros par mois. Et ces 1000 euros, il est même pas sûr qu'on les ait, parce que atteindre cet âge de 64 ans en étant dans les classes, face à des classes, je me vois pas, hein, personnellement, autour de 64 ou 65 ans, devant classe. Je plains, en fait, les enfants que j'aurai face à moi à 65 ans. Je pense qu'ils seront pas ravis d'avoir un vieillard face à eux, quoi. Enfin, je dis pas qu'on est vieillard à 65 ans, mais après, je pense que voilà, on peut offrir d'autres choses aux enfants.
Alors, il paraît que quelqu'un, quand on Blanquer a dit que bon, il va falloir revaloriser les salaires et qu'il faut pas s'inquiéter de ces côtés-là, quelqu'un lui a répondu chiche. Donc, si on fait bien les calculs, ça veut dire que tout de suite, il faut nous surmonter des 1500 euros.
Ouais, ce serait bien. Moi, je suis pour. moi, je suis arrivé donc dans le métier en 2009. Et je crois que le point d'indice, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation, n'a été augmenté en 10 ans que d'une seule fois. C'est-à-dire que mon salaire n'a suivi la courbe des prix qu'une seule année. Je crois que c'était au milieu du mandat Hollande. Je crois que c'est Marie-Lise Le Branchu à l'époque qui avait revalorisé. Je crois que c'était une année, juste avant l'année d'élection, avait revalorisé le point d'indice des fonctionnaires. C'est-à-dire le taux d'augmentation. Sinon, je n'ai pas été augmenté. Alors, j'ai été augmenté parce que j'ai changé d'échelon, parce que j'ai augmenté d'ancienneté, en gros, dans le métier. Mais je n'ai pas été reçu d'augmentation à la fin de chaque année en fonction de l'augmentation des prix. Mon salaire a été gelé depuis 10 ans, quasiment. Voilà. Donc, effectivement, j'ai envie de répondre à Blanquer la même réponse que ce monsieur ou cette dame a faite. Chiche, augmentons-nous. Et effectivement, je pense que 1500 euros, ça me... Mais je réclame ça pour moi, mais en fait, je réclame ça pour l'ensemble des salaires. Hein. Je ne suis pas du tout pour créer des régimes spéciaux enseignants ou cheminots. Moi, je suis pour que l'ensemble des gens aient le même taux de revenus, aient les mêmes droits à la retraite. Mais on pourrait peut-être niveler ça par le haut. Et offrir à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses la petite protection que les cheminots, que les gens de la RATP ou que les fonctionnaires ont, et leur permettre de pouvoir au moins vieillir dignement après une vie de boulot.
Mais justement, je pense que le gouvernement, en faisant le pari de présenter cette colère comme la défense tout simplement des régimes spéciaux, quelque part, ces régimes spéciaux deviennent l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce qu'on cherche, c'est le système universel, certes, mais à point.
Oui.
Et ça veut dire que tout le monde y perd.
Que tout le monde y perd. Oui, que tout le monde y perd. Je m'étais rapidement là renseigné sur le système à points. Donc le système à points, le problème du système à points, c'est que on va échanger, on va acheter des points, et que ces points ensuite nous serviront d'indice de calcul pour nos pensions retraite, mais que la valeur de ces points pourront très bien évoluer en fonction de notre carrière. Et évidemment baisser si les différents gouvernements veulent faire des économies sur le dos des retraités. Donc on n'a absolument aucune garantie avec cette retraite à points, aucune garantie que nos pensions de retraite vont être stables. Voilà. Elles peuvent tout à fait évoluer. Et moi, je pense que ce qui nous pénalise aussi beaucoup, c'est le calcul des retraites sur l'ensemble de la carrière. Et que c'est extrêmement aussi pénalisant pour les femmes, parce qu'on sait très bien que les femmes ont des carrières souvent beaucoup plus hachées, qu'elles sont plus concernées par le travail à temps partiel, qu'elles prennent davantage de congés parentaux, etc. Et que, alors, on voit dans les médias, mais non, ça va être une réforme plus juste, pas du tout. En fait, les calculs ont été faits.
C'est juste parce que tout le monde aura moins.
Oui, c'est juste, tout le monde aura moins. Mais ça va pénaliser encore plus, je pense, et les associations féministes le mettent en avant, ça va pénaliser encore plus les femmes qui sont souvent plus sujets à la précarité dans le monde du travail.
Alors, de toute façon, il y a des pays qui pratiquent cet système par points, notamment la Suède. On voit bien que quelque part des variables des ajustements en fonction des salaires de la bourse, des salaires financiers. Et d'autres pays qui ont essayé de les imposer, comme en Belgique, et ils n'ont pas réussi. Et la fronde syndicale a fait que cette réforme n'est pas passée parce qu'elle laisse la porte ouverte à la capitalisation. Et donc, les plus injustes qu'on peut imaginer.
Oui, bah de toute façon, on le voit ça, que le privé là, commence à rentrer dans les retraites. J'écoutais la dernière fois là, la radio à l'école pendant ma pause avec une ATE, c'est-à-dire c'est les employés qui nettoient les salles de classe. Et alors, on écoutait la radio parce qu'elle met la radio pendant son temps de travail. Et il y avait une pub pour je ne sais plus quelle banque qui disait « Venez nous voir, si vous êtes inquiet pour votre retraite, venez nous voir, on parlera des différentes solutions pour que vous puissiez avoir une retraite à peu près correcte. » Non, en fait, le fait de baisser les pensions retraite massivement et qu'on ait à peine de quoi vivre arrivé de passer 65 ans, ça ouvre la porte au fonds de pension privé. On va se mettre à cotiser dans les fonds de pension privés parce qu'on se dit que 1 000 € par mois à 65 ans, c'est pas possible. Il va nous falloir un peu plus. Et ces fonds de pension privés, on le voit très bien aux États-Unis. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir. Je fais un petit aparté. Il y a un bouquin qui s'appelle Nomadland qui vient de sortir, l'année dernière, et qui est un récit sur les vieux aux États-Unis qui ont tout perdu. Enfin, qui ont perdu leur retraite pendant la crise des subprimes en 2008 et qui sont obligés à 65, 70 ans d'aller travailler dans les entrepôts Amazon, de se vendre comme saisonniers sur les campings dans des boulots infernaux. Ils ont mal partout, ils sont complètement déprimés, ils n'ont pas de logement fixe, ils vivent dans des caravanes. Alors bon, mais si c'est ça qu'on nous réserve, moi je ne veux pas. C'est pour ça que je fais grève.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les relations avec M. Blanquer, qui se sont sérieusement dégradées tout au long de son passage. Mais dernièrement, effectivement, pour essayer de s'amorcer la colère des enseignants, on a découvert qu'une lettre est arrivée dans les boîtes mail de quelques 850 000 enseignants. Et en décembre, juste le 3 décembre, deux jours avant la mobilisation, et Blanquer tenait plutôt à partager les sens du projet de la réforme des retraites et de rassurer les enseignants. Alors, quelles ont été les réactions face à cette lettre?
Je suis en train de la rechercher là dans ma boîte mail. Je vais parler en même temps. À l'Assemblée générale, il y a un monsieur qui est intervenu, qui a dit moi, je savais pas si j'allais faire grève après le 5 décembre. Je me demandais. Et puis j'ai reçu cette lettre du ministre. J'ai reçu ces trois petits points où ils essayaient de nous rassurer. Et alors, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu et j'ai déposé mes intentions de grève pour le 6, le 9, le 10, le 11. J'ai vu tout de suite qu'ils se foutaient de nous et ça m'a largement convaincu de rentrer dans la grève. Donc effectivement, cette lettre, alors justement où il parle de la pension de retraite, où il parle de la petite revalorisation des salaires, ministère de l'Éducation, voilà, je l'ai. Non, c'est pas ça, tant pis, je pense que je le retrouverai pas. A pas du tout rassuré l'ensemble des enseignants, et on voyait même que c'était de la langue de bois et qu'il ressortait des petites mesurettes de son chapeau. De toute façon, le dialogue et la confiance, elle est un peu rompue avec Blanquer, en tout cas là dans le premier degré. On ne compte plus le nombre de déclarations méprisantes à l'égard des enseignants, on ne compte plus le nombre de déclarations méprisantes à l'égard des gilets jaunes, des travailleurs, etc. Bon, une lettre de plus, une lettre de moins, ça, c'est pas ça qui va changer l'estime qu'on avait, le peu d'estime qu'on avait pour ce ministre. C'est dommage, là, je ne retrouve plus.
Ce n'est pas grave, ça ne va pas être... Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous êtes, nous sommes en compagnie de Thomas, qui est instituteur dans le 18e arrondissement. C'est un voisin, c'est pour ça. Mmh. Et au début de l'émission, on était avec Laura, qui est chez Minotte au Bourget. Alors, je pense que peut-être on va sortir un petit peu de l'éducation nationale. Et pour voir un ensemble qui peut être la suite de ces mouvements pour son ampleur qui touche pour le moment nombre de secteurs de la fonction publique, mais le privé commence aussi à se mobiliser, par exemple dans le secteur aéronautique ou autre, et même dans la distribution. Il y a eu des appels à la grève dans les grandes distributions pour les 5 décembre. Donc, comment comprendre ces mouvements d'ampleur et quelle suite, quelle perspective ?
Ouais, effectivement, on est dans une grosse mobilisation. Et tu parlais du privé là tout à l'heure et j'ai reçu là des comptes rendus de copains, de camarades là qui me parlaient justement des entreprises privées. Et là, j'ai vu là par exemple que à Rouen, à Sanofi Rouen, donc Sanofi, l'entreprise qui fabrique des médicaments, dans une usine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, qui est à côté de Rouen, ils sont en grève reconductible là jusqu'à mardi prochain. Que Renault Cléon, pareil, qui est dans la région de Rouen, ils se remettent en grève à partir de mardi. Donc il y a des appels comme ça dans les entreprises privées. Alors c'est pas largement suivi, hein, c'est souvent quelques dizaines, voire une petite centaine de salariés qui débraillent. Mais on voit apparaître des choses qu'on a vues dans les grands moments de mobilisation. Je pense à 2006, au moment du CPE, je pense à 95, au moment là du plan Juppé. Et moi, je vois quelque chose qui se profile un peu comme en 95. C'est la première fois depuis 95 que je vois le métro bloqué à Paris de cette manière-là. Moi, je suis à Paris, je suis en 82 et je suis à Paris depuis les années 80. Et je n'ai pas vu le métro bloqué à Paris depuis 1995. Je m'en souviens encore, hein, je devais aller au collège, au lycée, à pied. Et je n'ai pas connu ça sur une longue période, hein, le métro bloqué sur une longue période depuis 1995. Et ça nous donne à tous et toutes, et même dans l'éducation nationale, beaucoup de cœur au ventre. Et ça va, je pense, nous pousser à continuer et à être déterminés. D'autant qu'en fait, dans l'éducation nationale, c'est un petit point de rappel, mais je pense que dans le premier degré, c'est-à-dire maternelle élémentaire, on est un des secteurs qui peut le plus bloquer le pays. D'ailleurs, en fait, Sarkozy, en 2008, quand il est arrivé au pouvoir, ne s'y est pas trompé. Hein, il a restreint le droit de grève des cheminots et de la RATP. Et des enseignants du premier degré, on est obligé depuis cette date-là de se déclarer en grève 48 heures avant, chose que les autres professions ne doivent pas faire. Voilà, excepté dans les hôpitaux, mais bon, dans les hôpitaux, c'est une autre question, il y a une question vitale en jeu. Voilà, mais là, pour la suite, nous, par exemple, sur le 18e et sur le 19e, je peux aussi parler du 19e, parce que j'ai eu les comptes rendus des assemblées générales sur le 19e, on va prendre contact avec les dépôts de bus, avec les gares qui sont à côté de nous, c'est-à-dire Gare de l'Est et Gare du Nord. On va prendre contact avec les enseignants du second degré. Olivier Besancenot, qui est porte-parole du NPA dans le 18e, est allé voir un dépôt de bus veut lancer une coordination sur le 18e arrondissement, c'est-à-dire que tous les secteurs, une coordination, c'est tous les secteurs en lutte se retrouvent et se coordonnent pour organiser des initiatives, des manifestations, etc. Je pense que là, il faut créer le plus de liens possible à l'intérieur de son secteur, c'est-à-dire convaincre ses collègues, là, il faut y aller parce qu'on a, bien trop à perdre. Et puis, il faut aussi aller voir humblement, évidemment, hein, les autres secteurs en grève, les autres lieux de travail, et leur dire, voilà, nous, on aimerait organiser des initiatives avec vous. Et là, c'est en train de se faire dans de nombreux coins à Paris et je pense en France. Là, les échos que j'ai sont assez enthousiasmants. Je pense que la suite, elle va être... ça ne va pas s'arrêter maintenant. Là, mardi, il y a une grosse journée de mobilisation avec une manifestation interprofessionnelle de prévu. Je pense qu'on sera dans des taux de grève sans, peut-être pas aussi fort que le 5 décembre, parce que le 5 décembre, ça a été préparé 2 mois avant, mais au moins, enfin, sensiblement, quand même, sensiblement pareil. Jeudi 12, il risque d'y avoir une nouvelle journée. Je pense que là, jusqu'à Noël, les semaines vont être rythmées par des grosses journées de mobilisation, et en fond, en toile de fond, une grève reconductible des transports, de l'éducation, peut-être de certains secteurs privés, des raffineries qui sont bloquées. Voilà. Moi, je vois ça avec pas mal d'optimisme, même si au début là, de l'émission, je parlais d'un certain abattement de mes collègues parce que dans le premier degré, il y a eu cette petite défaite de Lola Blanquer. Mais plus la grève va avancer, plus en fait, l'optimisme va prendre, je suis sûr. Voilà. Et on est en train. Tu parlais là, tout à l'heure des initiatives qu'on est en train de mettre en place. Bon, bah, dans le premier degré, par exemple, on met en place une caisse de grève. L'année dernière, pour la loi Blanquer, on avait réussi à récolter 12 000 euros dans cette caisse de grève et on avait pu payer 2 à 4 jours de grève pour les enseignants les plus en difficulté. Et ça avait pas du tout été négligeable dans le fait que des enseignants avaient pu se mettre en grève et avaient pu peser dans la mobilisation. Il y a ce genre d'initiative là qui se met en place un peu partout, des gens déterminés. On l'entendait à la Carmara Cheminote là qui a l'air hyper en colère, les gilets jaunes qui continuent. Et puis les syndicats, ça c'est aussi quelque chose à noter, les syndicats majoritaires,
je voulais te poser la question, oui,
qui ne sont pas du tout opposés à une grève dure, une grève longue. Bruno Martinez qui disait dans la manif, si Macron n'entend pas, bah nous on est prêts à continuer. Voilà, moi je pense que ça ce sont des signes, quand les syndicats aussi majoritaires qui représentent quand même des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés, voire des millions de salariés, disent bah on est prêts à entrer dans la bataille. Et ça change pour les collègues quand on vient dans les salles des, en tout cas quand on vient dans la salle des profs et qu'on leur dit bon bah voilà, le syndicat majoritaire appelle à la grève reconductible, et ben ils commencent à tiquer, à lever les yeux, à lever les yeux de leur assiette et à dire ah oui, ah, ben là on va peut-être vous écouter. Je pense que il y a quelque chose à jouer là, quelque chose à faire.
Bon, Thomas, on va se quitter. On te remercie de nous avoir accompagnés dans cette bilan des mobilisations à l'éducation nationale. Et avec Laura à la CNCF. Et je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir suivre cette mobilisation. Bon, déjà, la mobilisation d'aujourd'hui, la manifestation à Bercy. Pour le mardi, on aura des informations. Et pour nous reposer un petit peu de des grèves et de mobilisation, et le samedi 14, après, s'il y a manifestation, après la manifestation, vous pouvez venir pour la journée du livre d'FPP, et qui, ce livre, c'est plutôt des polars qui tournent autour du sujet des gilets jaunes et qu'on veut partager avec vous et avec les auteurs. Et aussi, il y aura une brocante des livres, des polars, mais pas que ça. Mais bon, ça, c'est après la manifestation que certainement il y aura lieu samedi 14 décembre. Sinon, nous, on sera de 16h à 22h avec vous. Merci, Lucien, pour la technique. Merci encore, Thomas, de ta présence. Et désolé pour les problèmes techniques du début. Et à la semaine prochaine.